Science-fiction, la chronique de Michel Pébreau, de l'Académie des sciences morales et politiques.
Je reprends ici les critiques de science-fiction que je réalisais dans le passé. À l'occasion de leur traduction de l'affaire Jésus, la dernière œuvre d'Andreas Eschbach, les éditions L'Atalante proposent une nouvelle édition de Jésus Vidéo. Jésus Vidéo avait été, en juillet 2001, un petit événement dans le monde de la science-fiction. Le sujet est original. C'est l'histoire d'une équipe d'archéologues qui, en travaillant près de Jérusalem, fait une découverte extraordinaire dans une tombe inviolée, vieille de 2000 ans. Le manuel d'utilisation d'une caméra vidéo japonaise qui utilise une technologie révolutionnaire mais dont la fabrication est concevable dans quelques années. On pense d'abord à une mystification, à un canular, mais on finit par se rendre à l'évidence. L'homme dont le squelette est couché auprès de la caméra a voyagé dans le temps, partant d'un avenir proche pour se passer lointain. Compte tenu de la date assez précise de création de la tombe que déterminent les experts, il n'y a guère de doute sur l'objectif de son voyage, vérifier l'histoire du Christ. Il a donc dû enregistrer une cassette vidéo. Sans doute l'a-t-il cachée. Mais où ? Pour la trouver, les archéologues sont en compétition avec des équipes mobilisées, l'une par le patron de presse qui a financé leur recherche, une autre par un service qui n'a renoncé ni à l'esprit ni aux méthodes de l'Inquisition, sans compter quelques sectes locales héritées d'un très lointain passé. C'est finalement, grâce à un écrivain allemand de science-fiction, consulté en raison de son imagination supposée, qu'est retrouvée la cassette. Au terme de multiples rebondissements, et après la destruction de la cassette d'origine grâce aux manœuvres de l'équipe supposée proche du Vatican, on finit par mettre la main sur une copie que l'un des découvreurs a eu la prudence de faire. On apprend qu'elle comporte une image de Jésus. D'autres copies alimentent la dévotion de sectes d'une religion christique purifiée. On finit même par retrouver vivant un homme qui pourrait être celui dont le squelette finira quelques années plus tard et 2000 ans plus tôt dans la tombe. L'ouvrage ne manque pas de souffle, il a connu un certain succès dans notre pays. Comme ce n'est pas illogique dans une affaire de voyage dans le temps, l'affaire Jésus réussit à commencer là où s'achève Jésus Vidéo et à s'achever là où il commence. Son point de départ, c'est la récupération de la fameuse copie par un milliardaire américain au prix de moyens que la morale réprouve. Celui-ci décide de mobiliser sa fortune pour rendre possible le voyage dans le temps qui est à l'origine de toute cette aventure. Il déniche un savant créatif qui a l'idée d'utiliser pour ce faire une substance chimique très rare, l'osmium. Il finance la fabrication d'une caméra conforme aux spécifications du manuel retrouvé. Pour le voyage, il constitue une équipe et y intègre son plus jeune fils. Il a un objectif précis, lié à sa foi inébranlable dans les saintes écritures. Ramener le Messie à notre époque afin que se réalise l'apocalypse annoncée par ses disciples pour son retour dans notre monde. Afin de ne rien laisser au hasard, il soutient et finance un candidat aux présidentielles américaines susceptible de déclencher une guerre nucléaire qui créerait les conditions d'une apocalypse effective. Sa détermination, sa fortune et son absence totale de scrupules lui permettent de surmonter bien des obstacles. Tout cela est traité avec professionnalisme. Andreas Eschbach n'hésite pas à faire appel à la crédulité du lecteur. Mais il a le souci d'expliquer, de justifier, le souci de donner des explications. Il a montré un bon sens du suspens. Il ne cesse d'ouvrir des pistes, de soulever des questions, de provoquer des rebondissements. Ses personnages sont décrits avec soin. Certains, communs aux deux ouvrages, ont évolué en vieillissant. Tous ont une vraie personnalité, des préoccupations de la vie de tous les jours, bref, une réelle crédibilité. Et il réussit un vrai tour de force, faire croire à la réalité d'une image, celle du Christ, qu'on ne fait qu'apercevoir. On comprend seulement que c'est un personnage qui dégage une aura exceptionnelle et qui est capable de réaliser quelques guérisons. On relit quelques citations bien choisies du Nouveau Testament, mais tout au long de ces 1200 pages, le lecteur n'apprend pratiquement rien du contenu effectif de la cassette vidéo. La science-fiction est aujourd'hui largement dominée par les auteurs anglo-saxons, le plus souvent américains. Rares sont les Européens qui bénéficient de traductions. Andreas Eschbach est l'un de ceux-là. Il a été découvert en 1995 par un ouvrage qui a été traduit en français en 1999, « Des milliards de tapis de cheveux ». C'est l'histoire d'une planète qui repose sur un système économique étrange fondé sur une communauté de tisseurs. Chacun d'eux constitue une famille en rassemblant plusieurs épouses. Cela lui permet de rassembler assez de cheveux pour composer un tapis. Il consacre sa vie à cette tâche. Quand elle est achevée, il vend le tapis à un marchand itinérant venu d'ailleurs. Le produit de la vente permet à son fils de constituer à son tour une famille pour tisser un autre tapis. Dans les premiers chapitres, composés comme des nouvelles, on découvre la vie, à la fois simple et étrange, des tisseurs dans leur petit village, ainsi que celle des marchands. Mais progressivement, l'auteur substitue un télescope au microscope. Un soldat, fils de l'un des tailleurs, revient un jour dans le village. Il apprend aux tisseurs que leurs tapis sont destinés à un vieillard immortel qui règne sur des milliers de galaxies. Les règles de vie de la planète ont été fixées par cet empereur. Le soldat l'a tué et il a permis son remplacement par une république. Les nouveaux dirigeants s'inquiètent de l'existence de ces tapis, dont ils ignorent la finalité. On finit par la découvrir, elle est extravagante, mais l'auteur réussit à lui donner une rationalité. Le deuxième ouvrage d'Andreas Eschbach, Station solaire, a été traduit en juin 2000. L'environnement géopolitique qu'il y annonce pour cette année, 2015, nous a fort heureusement été épargné. Un axe Japon-Chine-Corée y serait devenu la zone d'influence majeure, les États-Unis seraient sur le déclin et l'Afrique en train de mourir du sida. Quant à l'Europe, elle aurait sombré. Mais l'histoire contée mérite qu'on s'y arrête. La station solaire a été installée à 400 km de la Terre à bord d'un satellite japonais. Elle a pour objet de transmettre l'énergie solaire depuis l'espace à une Terre qui cherche à réduire sa pollution. Malheureusement, l'équipe de savants qui y est installée découvre l'existence d'un complot pour en prendre le contrôle. Peu après, le satellite est attaqué par un commando dirigé par un musulman qui a pour projet d'utiliser l'émetteur d'énergie pour détruire la Mecque. C'est un bon roman d'action qui ne manque pas de surprise. Andreas Eschbach a depuis lors écrit plusieurs autres ouvrages. Certains destinés aux adolescents, mais qui ne sont pas sans intérêt. Parmi les plus récents, En panne sèche compte l'histoire prochaine de notre monde privé d'énergie, mais affecté par la pollution. La trilogie Sanctuaire, Blackout, Hideout et Time Out se situe dans un futur un peu plus lointain. On a réussi à coupler la téléphonie mobile au réseau neuronal des êtres humains par la pose d'implants. Cela établit une communication télépathique automatique entre les personnes qui ont reçu ces implants. Une cohérence s'organise qui a vocation à unir tous ses participants, volontaires ou forcés, dans une même conscience. Certains refusent d'abandonner leur liberté et organisent la résistance. Parmi eux, quelques adolescents, dont un jeune hacker de génie. Les rebelles cherchent à s'isoler dans une communauté, un sanctuaire, protégé par une sorte de cage de Faraday. Mais le combat devient de plus en plus difficile au fur et à mesure de l'extension des implants. Que va-t-il se passer si la cohérence réussit, comme elle en a le projet, à intégrer le président des États-Unis ? L'auteur se plaît à décrire les jeunes gens et leurs relations. Mais le temps qu'il y consacre n'affaiblit pas l'intérêt de ce thriller qui met bien en évidence les dangers potentiels des technologies de l'information pour les libertés individuelles. Maître de la matière, qui a été édité en septembre 2013, compte l'histoire de deux personnages vraiment très attachants qui font connaissance à l'âge de 10 ans à Tokyo. Elle, et la fille de l'ambassadeur de France. Lui, le fils d'une voisine japonaise. Lui a une idée géniale. Créer des robots qui effectueraient toutes les tâches pénibles pour permettre l'enrichissement de toute l'humanité. Il va consacrer sa vie à fabriquer à cette fin des nanorobots auto-répliquants, mais sans atteindre l'objectif qu'il s'était fixé. Elle va se passionner pour l'archéologie, ils se perdent de vue, se retrouvent étudiants à Boston. Après une nouvelle et longue séparation, ils se rencontrent sur une île au nord de la Sibérie où vient de se produire un phénomène incompréhensible et dangereux. Lui est là pour chercher des explications, des solutions. Elle fait partie d'un groupe de climatologues qui a les mêmes objectifs. Ensemble, ils vont peut-être permettre au garçon de devenir, comme il en avait l'ambition, maître de la matière. La leçon de cette aventure, en matière scientifique, le hasard peut à tout moment ouvrir des perspectives que le long travail du chercheur n'avait pas permis d'imaginer. Andreas Eschbach est né à Ulm en 1959. Il a fait des études classiques dans le domaine aérospatial à l'Université technologique de Stuttgart avant de travailler dans cette ville comme développeur en informatique puis comme cadre dans une entreprise de conseil. Le succès de son premier roman, « Des milliards de tapis de cheveux » publié en 1995, lui a permis de vivre de sa plume. Il vit depuis 2003 en Bretagne. Plusieurs de ses romans ont été distingués par des prix de science-fiction allemands ou français. Les éditions La Talente traduisent assez systématiquement ses œuvres. Comme il écrit beaucoup, il laisse parfois passer certaines incohérences, se laisse aller à quelques facilités. Mais ses personnages sont décrits avec soin et ils sont toujours d'une profonde humanité. Il a le souci de dénoncer les injustices et les absurdités des pouvoirs illégitimes et tout ce qui peut menacer la liberté. Ses livres ne laissent pas indifférents. On peut donc trouver aux éditions La Talente, Jésus vidéo pour 25 euros, L'affaire Jésus, également pour 25 euros, Des milliards de tapis de cheveux, Station solaire, En panne sèche, la trilogie Sanctuaire, Blackout, Hideout et Time Out, et Maître de la matière.